Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette webconférence sur les entretiens annuels et les entretiens professionnels. Je vais attendre quelques secondes histoire que tout le monde puisse se connecter. Et puis ensuite, on démarrera la webconférence. J'espère que tout le monde se porte bien. Dès qu'il est 14h01, on pourra commencer. Voilà. Alors, comme je disais, donc, je suis ravie de vous accueillir pour cette webconférence sur le thème des entretiens annuels et des entretiens professionnels. C'est un sujet qui est important, surtout en ce moment, pour beaucoup de nos clients et beaucoup de nos visiteurs sur le site. Avant toute chose, je vais me présenter. Alors, je ne suis pas Mylène Volpillac, je suis Élodie Deliste. Je suis directrice marketing chez Jury Travail et je travaille avec Alexandra, donc, depuis maintenant 7 ans. Chez Jury Travail. Mylène a un petit problème technique, mais elle est là sur le chat et peut répondre à toutes vos questions sur le chat. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions et puis elle reprendra les webconférences dès la prochaine webconférence qui aura lieu bientôt début décembre. Donc le sujet est donc important sur les entretiens annuels puisque, comme vous le savez, les campagnes commencent bientôt. Et on a décidé avec Alexandra de partager ce sujet pour vous réexpliquer un peu toutes les démarches à faire en tant que RH. Avant tout, je vais quand même un peu parler de l'entreprise. Jury Travail, qu'est-ce que c'est? Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans. Jury Travail, c'est une équipe de 60 juristes qui sont à la fois à La Rochelle, à Clermont-Ferrand et à Paris, qui rédige des informations juridiques, que ce soit sous forme d'actualité ou de dossier, pour vous accompagner au quotidien dans toutes vos questions d'ordre juridique, en droit du travail, mais aussi en autres droits. Comment ça marche? On propose des accompagnements juridiques, c'est des abonnements en fait, grâce auxquels vous pouvez avoir accès à l'ensemble de notre base documentaire. Donc notre base documentaire, ce sont des dossiers qui sont rédigés par nos juristes, des actualités qui sont rédigées à la fois par nos juristes et nos avocats partenaires, également des modèles de lettres et de contrats qui sont certifiés par les juristes, et puis la convention collective qui est toujours à jour grâce à un partenariat qu'on a avec Légifrance. Alors, le contexte, ben voilà, on en a déjà un peu parlé, hein, le mois de décembre, janvier, ce sont des mois privilégiés pour faire un bilan sur l'année qui s'est écoulée avec vos salariés. Il y a deux types d'entretiens qui sont proposés, l'entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel. L'idée, c'est de développer ce moment privilégié d'échange avec vos salariés, mais surtout aussi de comprendre quelle est la différence entre cet entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel, les objectifs, les obligations employeurs, parce que c'est une obligation employeur, et comment les préparer en tant que manager ou RH. Comment on va se dérouler cette webconférence? D'abord, on verra les différentes définitions et obligations légales, puis la préparation et les étapes de l'entretien, les différents outils et la posture managériale que vous pouvez mettre en place pendant cet entretien, si jamais il y a des conflits, par exemple, ou des demandes un peu plus difficiles, comme des demandes d'augmentation. Sans plus attendre, je laisse la parole à Alexandra, qui va nous parler donc des obligations légales et de leur définition. La première question qu'on peut se poser, Alexandra, c'est quelle est la différence justement entre l'entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel? Quelle est l'utilité, pardon, de mettre en place ces entretiens annuels d'évaluation et ces entretiens pro?
Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour cette nouvelle webconférence. Donc du coup, pour répondre à la question d'Élodie, donc l'entretien d'évaluation professionnelle, qu'on appelle aussi l'entretien annuel d'évaluation ou l'entretien d'évaluation tout court, a pour objectif d'évaluer les compétences du salarié et le travail qu'il a réalisé sur l'année écoulée. Autrement dit, est-ce que les objectifs qui ont été fixés l'année précédente ont été remplis? C'est aussi l'occasion d'aborder les points forts et les axes d'amélioration sur lesquels doit travailler le salarié. Le moment est opportun aussi pour aborder les difficultés qu'il a pu rencontrer au cours de l'année pour mener ses missions et atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés. C'est aussi le moment de déterminer les objectifs de l'année suivante, et y compris les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, et évoquer les envies du salarié en termes de mission, de nouveaux challenges ou encore d'évolution professionnelle. Il est important de savoir aussi que les résultats de cet entretien d'évaluation peuvent être pris en compte pour faire accéder le salarié à une promotion professionnelle ou lui accorder, entre autres, une augmentation de salaire. Quant à l'entretien professionnel, il a des objectifs qui sont différents. D'une part, il permet de définir les possibilités d'évolution du salarié et d'autre part, d'analyser les formations qu'il serait judicieux de mettre en place pour l'accompagner dans le déroulement de sa carrière, tout en tenant compte des besoins et de la stratégie de l'entreprise. C'est aussi l'occasion d'informer le salarié sur l'activation et l'utilisation de son compte personnel de formation, et notamment sur les abondements que l'employeur est susceptible de réaliser sur ce compte. À la différence de l'entretien d'évaluation, l'entretien professionnel, lui, ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié, mais bien sur son évolution professionnelle. Ce temps d'échange se centralise surtout sur les perspectives d'évolution et la construction du projet professionnel du salarié. Il permet en fait à l'employeur d'optimiser les compétences humaines et professionnelles de ses employés, notamment via des formations. L'entretien professionnel est obligatoire. Il concerne tous les salariés et doit en principe avoir lieu après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, puis tous les 2 ans à partir de la date de l'entretien précédent. Petite particularité, l'entretien professionnel doit être systématiquement proposé aux salariés après une période d'interruption du contrat de travail. Ce sera notamment le cas suite à un congé maternité, un congé parental d'éducation, un congé de proche aidant ou encore une période d'activité à temps partiel ou un arrêt longue maladie. Ce ne sont pas les seules périodes d'interruption de travail qui sont prises en compte, mais voilà, il y en a d'autres aussi. Et enfin, tous les 6 ans, l'entretien professionnel doit faire un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié. On y reviendra un peu plus tard au cours de la webconférence. Et enfin, il faut savoir que le déroulement de l'entretien d'évaluation ne dispense pas l'employeur de mettre en place également un entretien professionnel. Les deux peuvent se faire successivement. Par contre, il faut bien que ceci soit distinct, et que cela soit clair pour le salarié.
Merci beaucoup Alexandra, c'est très clair. Alors du coup, je propose de passer aux deuxièmes questions sur l'employeur a-t-il l'obligation d'évaluer ses salariés? Que dit d'ailleurs le Code du travail sur ce sujet? Et puis la convention ou l'accord collectif peuvent-ils rendre obligatoires ces entretiens annuels d'évaluation?
Alors, l'entretien d'évaluation, il est facultatif. Ce n'est pas une obligation qui est prévue par le Code du travail. Néanmoins, il est possible qu'un accord ou une convention collective prévoie la mise en œuvre d'entretiens d'évaluation, et ce, de façon obligatoire. Dans un tel cas, l'employeur est tenu de les réaliser. Généralement, les entretiens d'évaluation ont lieu tous les ans, mais l'employeur ou un accord peuvent très bien fixer une périodicité différente.
C'est très clair. Donc, les questions suivantes. La mise en place de l'entretien annuel d'évaluation nécessite-t-elle la consultation des IRP en place dans l'entreprise? Et l'employeur est-il tenu d'accepter la présence d'un représentant du personnel, justement, lors de son entretien?
Alors, lorsque l'employeur souhaite mettre en place des entretiens d'évaluation dans son entreprise, il doit en effet consulter les instances représentatives du personnel qui sont en place. L'entretien d'évaluation peut engendrer chez certains salariés du stress ou une certaine forme de pression. Et du coup, à ce titre, les IRP doivent être consultés sur la tenue d'un tel entretien. Il faut le rappeler, le CSE est consulté sur tout aménagement important qui impacte les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail. Si le CSE estime, par exemple, que les procédés d'évaluation portent atteinte aux droits des personnes ou à la santé des salariés, les membres de la délégation peuvent tout à fait recourir à leur droit d'alerte. L'employeur devra alors procéder sans délai à une enquête et prendre toutes les dispositions pour remédier à cette situation. Si ce dernier ne prend aucune mesure pour faire cesser cette situation ou que le CSE considère que les mesures qui sont prises par l'employeur ne sont pas suffisantes, un membre de la délégation du personnel au CSE a la possibilité de saisir le bureau de jugement du Conseil des prud'hommes qui, dans ce cas-là, va statuer selon la procédure accélérée au fond. Donc, c'est une procédure rapide qui permettra de faire cesser toute atteinte aux droits des personnes dans l'entreprise. Par ailleurs, l'employeur n'est pas tenu d'accepter la présence d'un représentant du personnel lors de l'entretien d'évaluation du salarié, et il ne peut se voir reprocher ce refus, comme étant un délit d'entrave.
Ok, merci Alex. La dernière question sur cette première partie sur la définition et les obligations légales, c'est le résultat, les résultats de cet entretien, de ces entretiens, est-ce qu'ils doivent être confidentiels ou non?
Alors, dans une certaine mesure, les résultats obtenus dans le cadre de l'entretien d'évaluation sont confidentiels. Seules les personnes qui sont habilitées au titre de leur mission ou de leur fonction doivent pouvoir accéder aux données d'évaluation, et ce, uniquement dans le cadre de leur attribution respective et de l'accomplissement de leur mission. En dehors de ces personnes, l'employeur a l'interdiction de communiquer les informations récoltées au cours de ces entretiens à des tiers. Il en va de même pour les informations qui sont collectées dans le cadre des entretiens professionnels. Elles sont confidentielles également. En revanche, le salarié, lui, peut tout à fait demander à accéder aux résultats de ces entretiens. Il est même en droit de demander une copie intégrale des résultats des entretiens d'évaluation.
D'accord. Et justement, comment ça se passe quand c'est l'entretien de fin de carrière? Quelle est la différence? Comment, qu'est-ce que c'est?
Alors, l'entretien de fin de carrière, c'est également un entretien individuel, mais qui se déroule entre un salarié qui est proche de la retraite et son employeur. Cet entretien a des finalités différentes de l'entretien d'évaluation ou de l'entretien professionnel, puisqu'il permet à la fois de faire le bilan de l'expérience professionnelle du salarié senior au sein de l'entreprise, mais également d'établir une transition entre sa vie professionnelle et son départ à la retraite. L'entretien de fin de carrière n'est pas obligatoire, mais il présente divers enjeux qui sont importants. En effet, il va permettre de s'assurer de la motivation du salarié jusqu'à son départ à la retraite. Il est indispensable que le salarié se sente accompagné jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle. Cet entretien permet ensuite d'anticiper les recrutements pour pourvoir, pardon, au remplacement du salarié qui part à la retraite, et du coup, par la même occasion, d'anticiper la passation entre le salarié senior et son successeur. Et ça vous permettra également d'éviter la perte des savoirs et des compétences au sein de votre entreprise. Et enfin, l'entretien de fin de carrière permet également d'organiser le processus d'offboarding du salarié, c'est-à-dire d'organiser sa sortie de l'entreprise. Donc finalement, on voit bien que cet entretien de fin de carrière s'inscrit avant tout dans une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise.
Ouais, c'est intéressant à mettre en place, effectivement. Et dans un cas où l'employeur refuserait justement d'évaluer ses employés, qu'est-ce qu'il risque? Et de la même manière, enfin, en inverse, est-ce que les salariés, eux, peuvent aussi refuser de faire l'objet d'une évaluation?
Alors, en théorie, l'employeur ne risque rien à proprement parler à ne pas évaluer ses salariés, puisque l'organisation d'un entretien d'évaluation n'est pas imposée par la loi. Néanmoins, ce type d'entretien permet tout de même à l'employeur de satisfaire à certaines de ses obligations indirectement. En effet, lorsque l'employeur ne met pas en place d'entretien d'évaluation, cela peut impliquer plusieurs choses. Premièrement, il peut manquer à son obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail. On le sait, les entretiens annuels d'évaluation sont l'occasion d'identifier les points forts du salarié, mais également ses points faibles, ses axes d'amélioration et les moyens qu'il est possible de mettre en œuvre pour qu'il puisse parvenir à la réalisation de ses objectifs. Et tout ceci peut se faire par le besoin d'une formation. Ensuite, l'employeur qui n'évalue pas ses salariés augmente aussi les risques de ne pas mener une politique de rémunération cohérente vis-à-vis de ses salariés. Et à ce titre, il s'expose à enfreindre le principe d'égalité de rémunération. Quant au salarié, lui, il ne peut refuser de se soumettre à l'entretien d'évaluation qui est imposé, puisque le droit d'évaluer le travail des salariés est inhérent au pouvoir de direction de l'employeur.
D'accord. Alors, merci beaucoup. Donc, on a vu les différents types d'entretiens, mais il y a aussi le bilan de parcours professionnel effectué tous les 6 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
En effet, le Code du travail prévoit un bilan de parcours professionnel. Donc, ce bilan est effectué dès que le salarié a 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou tous les 6 ans s'il est là depuis plus de 6 ans. Cet entretien, c'est un état des lieux récapitulatif. Il permet en fait de faire le bilan sur le parcours professionnel du salarié et notamment de mettre en lumière les entretiens professionnels antérieurs et leurs impacts sur le parcours professionnel du salarié. Concrètement, cet entretien va permettre de voir si le salarié a pu suivre une formation au cours de ces 6 dernières années, ou acquérir des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience, mais également de vérifier s'il a pu bénéficier d'une progression salariale ou d'une progression professionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par progression salariale ou progression professionnelle? Ce ne sont pas des termes qui sont définis précisément par le Code du travail. Néanmoins, on peut entendre par progression salariale les différentes augmentations que l'employeur a pu consentir aux salariés ces 6 dernières années, en plus des éventuelles augmentations qui ont pu être accordées à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et quant à la progression professionnelle, elle peut quant à elle se traduire par une progression verticale. Concrètement, il pourra s'agir de l'accès à une qualification professionnelle supérieure. La progression professionnelle peut aussi se traduire par une mobilité horizontale qui, dans ce cas-là, va consister en une progression en termes de responsabilité ou en un changement de métier, tout simplement.
Ok, c'est très clair. Merci beaucoup Alexandra. Ce qui met fin à notre première partie. J'ai oublié de vous dire en amont que si vous avez des questions, effectivement, il y a donc des questions que vous pouvez utiliser. On essaiera de répondre à vos questions à la fin de la webconférence. Si jamais ce n'est pas le cas et qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, vous serez recontacté par nos juristes dans la semaine, quoi. Donc, reprenons la deuxième étape, c'est la préparation justement et les étapes de l'entretien. Et la première question qu'on peut se poser, c'est justement l'entretien annuel d'évaluation. Comment peut-on le mettre en place?
Lorsque l'employeur met en place un entretien d'évaluation dans son entreprise, il doit respecter des règles strictes quant à sa mise en place. La loi prévoit en effet que le CSE doit être consulté avant la mise en œuvre de méthodes et techniques d'évaluation. Le salarié, lui, doit également être expressément informé du système d'évaluation qui est mis en place préalablement à sa mise en place. La loi ne fixe pas de conditions concernant la forme de cette information préalable. Cependant, il semble que le recours à un écrit est quand même préférable afin de pouvoir prouver en cas de litige ultérieur que l'information avait bien été portée à la connaissance du salarié. Par ailleurs, la collecte de données personnelles au cours des entretiens d'évaluation nécessite aussi l'information préalable du salarié au regard du règlement général de la protection des données, c'est ce qu'on appelle le RGPD. L'employeur doit en effet informer les salariés, notamment sur la finalité du traitement des données. Il doit également leur communiquer les coordonnées du délégué à la protection des données, quels seront les destinataires de ces données récoltées, quelle sera la durée de conservation des données, et ainsi que de l'existence et des conditions d'exercice de leurs droits s'ils souhaitent contester l'utilisation des données qui en est faite.
L'entretien annuel, c'est aussi l'occasion de mettre en place des objectifs. Donc là, si on parle un peu plus des objectifs du salarié qui sont déterminés souvent par l'employeur, parce que c'est de façon unilatérale, et que faire si un salarié refuse ses objectifs, comment réagir?
Alors, les objectifs professionnels, ils peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Toutefois, les objectifs qui sont fixés aux salariés doivent être atteignables. Cette précision est importante puisque en cas de litige relatif à un licenciement fondé sur une insuffisance de résultats, le juge vérifiera le caractère raisonnable de l'objectif fixé. Si les objectifs fixés sont difficilement atteignables, l'employeur ne pourra certainement pas fonder le licenciement sur l'insuffisance professionnelle du salarié. En revanche, si le contrat de travail stipule que les objectifs sont fixés d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, ce principe doit être respecté et il ne peut être remis en cause que par un avenant au contrat de travail. Ensuite, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, c'est-à-dire le plus tôt possible. À défaut, l'employeur s'expose à une condamnation en dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Dans tous les cas, il faut bien penser à vérifier si le contrat de travail, une convention ou un accord collectif ne fixe pas un délai pour remettre les nouveaux objectifs aux salariés. Dans ce cas-là, si c'est le cas, vous devez vous y conformer. Et lorsque les objectifs sont fixés unilatéralement par l'employeur, le salarié a en principe l'obligation de s'y soumettre dès lors que ceux-ci sont proportionnés et atteignables. Et si le salarié refuse les objectifs fixés, dans ce cas-là, l'employeur pourra prendre une sanction à l'égard du salarié qui peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Ouais, c'est très clair. Donc du coup là, on a vu toute la préparation, hein, à la fois la préparation de l'entretien et des objectifs que doit proposer le manager. Maintenant, je te propose d'échanger sur les différentes étapes pour structurer l'entretien d'évaluation.
Alors, avant toute chose, il est important de rappeler, même si ça paraît évident, mais qu'il est nécessaire de programmer l'entretien d'évaluation. Celui-ci se déroule sur le temps de travail, du coup il est important qu'une date et une heure précise soient fixées afin de permettre aux salariés d'organiser son activité en conséquence et également aussi... Enfin, pour vous organiser aussi, vous également. La programmation de l'entretien est également importante puisque celui-ci doit être préparé en amont, aussi bien par le salarié que par l'employeur. L'entretien d'évaluation constitue un réel moment d'échange qui doit s'avérer constructif. Et pour être constructif, sa préparation est indispensable. Le jour de l'entretien, on attend de vous que vous conduisiez celui-ci. Il y a certains salariés qui sont plus enclins que d'autres à échanger. C'est pourquoi vous devez prendre le lead pour rendre cet entretien dynamique et en faire un moment d'échange constructif. N'hésitez pas à conserver sous les yeux le document que vous avez préparé en amont pour ne pas perdre le fil de l'entretien et être certain d'aborder les points essentiels auxquels vous aviez pensé. Généralement, l'entretien d'évaluation, se déroule en plusieurs étapes, parmi lesquelles on va retrouver un bilan général de l'année écoulée et une appréciation des résultats obtenus, une évaluation de la performance globale du collaborateur ou encore une définition des objectifs pour l'année à venir. On peut également retrouver un recueil des souhaits du collaborateur en termes de mobilité, d'objectifs de carrière, de besoins de formation. Et on peut aussi avoir, dans le déroulement de cet entretien, une conclusion de l'entretien où là, il s'agit de donner une possibilité au collaborateur d'ajouter un commentaire libre s'il le souhaite. Pensez également à retranscrire le contenu de l'entretien dans un compte-rendu d'évaluation. Celui-ci vous permettra de garder une trace de vos échanges et il pourra également vous resservir pour l'entretien d'évaluation suivant, l'année prochaine, pour faire le bilan sur les objectifs qui ont été fixés là dernièrement pour l'année à venir.
D'accord, merci Alexandra, c'est très clair. Mylène vous a mis quelques liens hein, dans le chat justement de modèles de grille d'entretien annuel d'évaluation et de modèles de grille d'entretien professionnel qu'on vous propose sur le site. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. La question suivante, elle porte justement sur la fin de l'entretien et justement une fois que le salarié a mis sa petite conclusion, est-ce que c'est obligé d'obtenir la signature par le salarié du procès-verbal de l'entretien ?
Alors, le Code du travail n'impose pas à l'employeur d'obtenir un bilan d'évaluation signé par le salarié. En pratique, ce document, en fait, il est signé par le salarié pour établir son accord sur les résultats de son évaluation et les objectifs fixés par l'année suivante. C'est une formalité. Mais pour marquer son mécontentement, le salarié est tout à fait en droit de refuser de signer le document. Si tel est le cas, son refus de signer n'a pas d'incidence. La validité du compte-rendu d'évaluation n'est pas remise en cause. Et il faut savoir que même si le salarié signe le compte-rendu d'évaluation, il a toujours la possibilité de contester son entretien d'évaluation devant le conseil de prud'homme.
Ok, très clair. Donc du coup, la question suivante, sur les entretiens annuels et les entretiens professionnels, quels sont les sujets et les informations à aborder avec son salarié ?
Alors, concernant l'entretien d'évaluation, le salarié est déjà tenu de répondre de bonne foi aux questions posées par l'employeur dès lors que les informations demandées ont un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes. Par conséquent, les informations qui sont demandées au salarié durant l'entretien ne peuvent avoir pour finalité que d'appréhender ses aptitudes professionnelles. Le dispositif d'évaluation doit permettre d'évaluer le travail accompli par le salarié l'année précédente, de fixer les nouveaux objectifs pour l'année à venir, et l'employeur doit le faire sur la base de critères objectifs et vérifiables. Il ne peut donc pas prendre en compte des critères qui touchent par exemple à l'appartenance syndicale du salarié, à son âge ou qui concernent par exemple sa sexualité ou tout autre critère qui relèverait de sa vie personnelle. L'employeur s'exposerait alors à un contentieux puisque le salarié pourrait invoquer une discrimination. Concernant l'entretien professionnel, s'il n'y a pas de mention spécifique prévue dans un accord de branche ou d'entreprise, l'employeur peut définir librement le contenu de l'entretien professionnel en fonction des orientations stratégiques de son entreprise. Par exemple, l'employeur peut effectuer le bilan du parcours professionnel du salarié avant et depuis son entrée dans l'entreprise. Ou encore, il peut faire un parallèle entre les besoins de l'entreprise au regard de sa performance et de sa compétitivité et les compétences du salarié, ses besoins de formation et ses souhaits concernant sa carrière et son évolution professionnelle.
Et justement, si on reste sur l'entretien pro, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le déroulé de cet entretien professionnel ?
Alors, Le Code du travail ne comporte aucune précision à ce sujet. Chaque entreprise peut organiser le déroulement des entretiens professionnels librement, sauf accord d'entreprise ou convention collective prévoyant un processus précis. Il faut savoir que l'entretien pro peut être réalisé par exemple par un employeur, c'est généralement le cas dans les petites entreprises. Sinon, il est généralement réalisé par un manager, un chef d'équipe ou encore le responsable des ressources humaines ou un autre salarié du service RH. Parfois par des prestataires spécialisés, ça arrive aussi. L'entretien pro doit avoir lieu dans l'entreprise et durant les heures de travail. Il faut savoir que le temps passé en entretien professionnel est considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié doit également faire l'objet d'une convocation à l'entretien professionnel afin de lui laisser le temps nécessaire, tout comme l'entretien d'évaluation, pour lui permettre de préparer celui-ci. Et enfin, l'entretien professionnel doit également être formalisé par la rédaction d'un document écrit, dont une copie sera également remise au salarié.
Et si jamais l'employeur ne souhaite pas mettre en place l'entretien professionnel, qu'est-ce qu'il risque? Quelles sont ses sanctions? Quelles sont les sanctions?
Alors, vous l'avez compris, l'entretien d'évaluation n'est pas obligatoire, mais l'entretien pro, quant à lui, l'est. Du coup, dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'employeur qui ne fait pas bénéficier les salariés d'entretien professionnel tous les 2 ans et qui ne fait pas bénéficier le salarié d'au moins une action de formation non obligatoire peut être condamné à abonder le compte personnel de formation du salarié à hauteur de 3 000 euros. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, il n'existe aucune sanction particulière. Néanmoins, si elles n'assurent pas l'adaptabilité des salariés à leur poste de travail et le maintien de leur employabilité, elles manquent nécessairement à son obligation en matière de formation. Du coup, l'entreprise peut être condamnée également à ce titre au versement de dommages et intérêts en cas de contentieux avec un salarié.
C'est très clair. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je vous le redis, vous pouvez les poser dans l'onglet questions. Et puis on y reviendra à la fin de la webconférence. Je vois qu'il nous reste encore 15 minutes et il nous reste une partie à traiter, donc on est plutôt pas mal. On vous a mis ici deux modèles donc, dont on a déjà parlé, hein, l'exemple de grille d'entretien annuel d'évaluation et l'exemple, le modèle de grille d'entretien professionnel que vous pouvez retrouver sur le site. Mylène vous a mis les liens un peu plus haut sur le chat. Donc, les outils justement pour les entretiens, je suis allée trop vite, sur pardon, les entretiens annuels et pro, est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus sur ces deux grilles de documents?
Alors, le code du travail, là encore, n'impose pas d'outils spécifiques auxquels avoir recours pendant les entretiens d'évaluation et les entretiens professionnels. Mais il existe plusieurs outils qui ont fait leur preuve. Pour un entretien d'évaluation, par exemple, vous pouvez utiliser des formulaires d'auto-évaluation que le salarié pourra remplir en amont. L'objectif est vraiment qu'il s'auto-évalue, notamment sur la réalisation de ses objectifs, ses points forts, ses points faibles, afin que vous puissiez, le jour de l'entretien, échanger ensemble sur ses résultats. Il va probablement en ressortir des points sur lesquels vos ressentis et vos attentes diffèrent, et cela vous, enfin, ça vous donnera une base intéressante déjà pour commencer à échanger pendant l'entretien d'évaluation. Vous pouvez aussi utiliser des grilles d'entretien d'évaluation. Donc concrètement, comment ça se présente? C'est des formulaires qui sont construits autour de plusieurs parties, plusieurs axes. Donc on trouvera généralement un premier bilan de la période écoulée. Donc, où on va aborder quels sont les succès, les fiertés ou les difficultés rencontrées par le salarié tout au long de l'année. Également, quels ont été les faits marquants qui ont pu impacter l'activité du salarié au cours de l'année. On pourra retrouver également une partie sur le retour sur les objectifs du salarié. Donc, quels étaient les objectifs fixés, quels étaient les critères de réalisation et est-ce qu'ils ont été atteints ou non. Ensuite, on peut avoir une partie sur le poste de travail du salarié en lui-même. Donc là, on va plutôt aborder la motivation et le ressenti du salarié par rapport au poste qu'il occupe. Est-ce que le salarié s'épanouit dans son travail? Comment il se sent au sein de l'équipe? Également, on peut avoir une partie sur l'accompagnement managérial. Donc là, on va aborder comment se passent les relations avec son manager, est-ce qu'il est à l'écoute. Alors évidemment, lorsque c'est le manager lui-même qui fait passer l'entretien d'évaluation et non une personne du service RH, les salariés peuvent avoir des réticences à dire ce qu'ils pensent de leur manager. Ça va de soi. Néanmoins, c'est un sujet qu'il est important d'évoquer puisque les retours du salarié sur ses relations avec son manager peuvent aider ce dernier à se remettre en question et à revoir ses méthodes de management si besoin. Donc c'est toujours constructif et à l'inverse, c'est également valorisant pour un manager de savoir que ses collaborateurs ont un ressenti positif vis-à-vis de lui. Par ailleurs, on peut également aborder au cours avec cette grille les envies du salarié pour l'année à venir. Voilà, essayer de savoir sur quel projet il aimerait travailler, qu'est-ce qui l'intéresse. Évidemment, il faudra aussi prévoir une partie pour fixer les objectifs de l'année à venir et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. Et on peut également clôturer le déroulement de cette grille en prévoyant une partie commentaire libre, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, aussi bien pour le salarié que pour le manager ou les RH. Ce sera généralement l'occasion pour le salarié de solliciter une augmentation ou l'attribution d'une prime ou d'un avantage quelconque. Et le manager, quant à lui, va pouvoir aussi écrire une appréciation afin d'appuyer ou non la demande du salarié auprès de la direction. Au niveau de l'entretien professionnel, là encore, vous avez la possibilité d'utiliser les grilles d'entretien professionnel. Alors, par contre, là, étant donné que l'entretien pro n'a pas le même objectif que l'entretien d'évaluation, cette grille va s'établir autour d'axes qui sont différents. Donc là, on retrouvera plutôt une synthèse du parcours professionnel du collaborateur. Donc, ça va être quelles sont ses expériences passées, dans quelles entreprises il a travaillé, à quelle date, quel poste il a occupé, quelles compétences il a développées. On retrouvera également une description du poste de travail qu'il occupe actuellement. Donc, quelles sont ses principales missions, quelles compétences sont requises, quelles ont été les évolutions significatives constatées depuis le dernier entretien professionnel et les évolutions qu'il a pu avoir et éventuellement les évolutions qui sont encore possibles. Et enfin, on retrouvera aussi des actions de formation qui peuvent être mises en œuvre. Donc, est-ce qu'il y a eu des actions de formation mises en œuvre depuis le dernier entretien ou un bilan de compétences effectué par le salarié ou encore une validation des acquis de l'expérience. On cherchera également à savoir si le salarié a utilisé son compte personnel de formation. On peut également prévoir une partie sur les souhaits de formation du salarié et ses perspectives d'évolution. Et pour conclure l'échange, on peut également prévoir une partie réflexion commune sur la construction du parcours professionnel du salarié, donc notamment au regard des axes stratégiques de l'entreprise et le cas échéant, du coup, lui faire des propositions de formation. Par ailleurs, il faut savoir qu'il existe des logiciels de gestion des entretiens d'évaluation et des entretiens professionnels qui vous aident à mettre en place ces entretiens et à en analyser les résultats. Ces logiciels présentent plusieurs avantages puisqu'ils permettent d'automatiser la planification et le suivi des entretiens et donc de standardiser votre processus d'évaluation pour gagner du temps dans l'organisation des entretiens. Typiquement, ces logiciels, généralement, prévoient d'envoyer des rappels et des notifications sur les périodicités des entretiens qui doivent se tenir. Ils vont également vous permettre de stocker toutes les informations recueillies au même endroit et du coup, d'obtenir des données qui seront exploitables. Et enfin, ces logiciels peuvent aussi fournir des outils de suivi de performance qui vont aider les managers à suivre les progrès du salarié depuis son arrivée dans l'entreprise. Ils peuvent générer par exemple des rapports détaillés sur les performances individuelles, ce qui peut aider les managers ensuite à identifier les domaines d'amélioration et les points forts du salarié.
C'est très clair. Merci beaucoup, Alexandra, pour ce point. Maintenant, on va passer à une autre partie qui est un peu, peut-être moins droit du travail, mais plus posture managériale, pour justement échanger ensemble sur quelle est la posture à adopter lors d'un entretien. Voilà, commençons par cette question, par exemple.
Alors, gardez en tête que les entretiens, qu'il s'agisse de l'entretien d'évaluation ou de l'entretien professionnel, ce sont des temps d'échange précieux qui doivent s'avérer constructifs. Pour que ceux-ci se déroulent de la meilleure manière possible, restez ouverts. Peu importe les conflits antérieurs ou en cours que vous pouvez avoir avec votre collaborateur, soyez à l'écoute de ses envies et de ses attentes, que ce soit en termes d'évolution, de formation ou encore de rémunération. Ça vous permettra d'établir un dialogue sur des bases sereines qui vont inciter le salarié à être proactif et force de proposition tout au long de l'entretien. Ne vous éparpillez pas, ça vous permettra de maîtriser le temps de l'entretien et de rester focalisé sur les sujets qui doivent être abordés au cours de celui-ci.
Et justement, si après il y a des sujets un peu de tension entre le manager et le salarié, comment on peut gérer ce conflit, cette tension pendant l'entretien?
Alors, si un conflit intervient au cours de l'entretien, qu'il soit antérieur ou non, bon, évidemment, restez calme et courtois, ça va de soi, mais veillez aussi à ne pas tenir propos déplacés, pardon, qui pourraient vous être reprochés par la suite, tels que des propos offensants ou humiliants. Ces entretiens ne doivent pas faire office de procès du salarié. Donner la possibilité aux collaborateurs d'exprimer ses revendications plutôt que de chercher à enterrer le conflit. Tentez de trouver ensemble des solutions aux problèmes qui se posent et si vous êtes dans l'incapacité d'apporter une réponse précise aux collaborateurs au cours de l'entretien, n'hésitez pas à lui dire que vous reviendrez vers lui très prochainement. Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre N plus 1 lorsque vous en avez un, pour qu'il prenne le lead sur le problème et vous apporte son soutien pour trouver une solution au problème qui est remonté par le salarié.
Ça marche, c'est très clair. Alors souvent, les entretiens, c'est aussi là où le salarié va demander une augmentation. Comment on peut refuser? Est-ce qu'il faut refuser pendant l'entretien? Est-ce qu'il vaut mieux voir après?
Alors, avant toute chose, lorsqu'un salarié demande une augmentation professionnelle, une augmentation de salaire, pardon, il le fait toujours en ayant préparé sa demande. Donc, donnez-lui la possibilité d'exposer ses arguments. Dans le cas contraire, si vous coupez court au dialogue, vous risquez de perdre sa confiance et il est important, de prendre sa demande en considération. Votre refus doit être motivé. Ne dites pas juste non. Si vous pouvez pas donner une suite favorable à sa demande d'augmentation, appuyez toujours votre décision sur des faits. Quelle que soit la raison, il est important de motiver votre décision de refus. Ça peut être par exemple parce que vous rencontrez des limites budgétaires. Dans ce cas-là, soyez transparent. Ça peut être aussi parce que le travail accompli n'excède pas vos attentes en comparaison de ses collègues qui occupent une fonction identique ou similaire. Par ailleurs, ce n'est pas le tout de justifier un refus d'augmentation. Vous devez aussi expliquer au salarié ce qui peut justifier à l'avenir une augmentation de salaire. Faites-lui part des changements que vous attendez ou des réalisations qui sont nécessaires pour qu'il puisse obtenir une future augmentation. Donnez-lui les moyens de se projeter. Il ne faut pas non plus oublier que la rémunération ne se limite pas au seul salaire. Vous avez la possibilité, pour motiver ou fidéliser votre salarié, de lui proposer d'autres avantages, un aménagement d'horaire de travail, du télétravail, une prime exceptionnelle éventuellement. C'est une façon de montrer au salarié que vous reconnaissez son investissement et que vous l'encouragez à poursuivre ainsi.
C'est très clair. Et si jamais le salarié justement nous annonce qu'il veut démissionner, comment on peut réagir? Parce qu'on peut être pris de court.
Oui. Alors, avant toute chose, il faut rappeler que la démission, elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque. Donc, à défaut, elle n'est pas considérée comme ferme et définitive. Concrètement, c'est pas parce qu'un salarié vous confie pendant son entretien d'évaluation qu'il envisage de démissionner que vous devez prendre ses propos au pied de la lettre. Il est dangereux de considérer d'office le salarié comme démissionnaire puisque puisqu'il peut obtenir ultérieurement une requalification de la rupture, un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, l'objectif de l'entretien d'évaluation, ce n'est pas de juger si oui ou non l'intention de démissionner du salarié est motivée ou non. Par contre, invitez-le plutôt à exprimer ses revendications, à trouver conjointement des solutions pour lui donner envie de continuer à s'impliquer dans l'entreprise. Ce salarié souhaite peut-être simplement que de nouvelles missions lui soient confiées ou s'investir dans de nouveaux projets. Tout n'est pas une question de salaire. Par ailleurs, lorsqu'un salarié vous fait part de son intention de démissionner, ne vous servez pas non plus de cet argument pour justifier un refus de promotion professionnelle ou une augmentation de salaire. Il est en effet possible que le salarié avance de tels propos, pensant maladroitement mettre la pression à son employeur et obtenir ce qu'il souhaite. Alors certes, la manière de s'y prendre n'est pas la plus judicieuse, mais un tel refus de votre part au motif que le salarié entend démissionner ne fera que favoriser son désengagement. Donc cherchez plutôt à savoir quelle est la cause de son désengagement et invitez-le à faire part de son ressenti. Voilà. Et du coup, vous l'aurez compris, le dialogue, c'est vraiment la clé de réussite d'un tel entretien.
Oui. Le dialogue et la confiance aussi, j'ai l'impression.
C'est ça, oui.
Ça marche. Merci beaucoup, Alexandra. Si tu veux bien, on va passer aux questions. Alors, je vais me mettre sur l'angle des questions. La première question, bonjour, est-ce que l'employeur doit faire passer un entretien d'évaluation aux IRP?
Alors oui, oui. Donc les représentants du personnel n'échappent pas à l'entretien d'évaluation, mais par contre l'employeur doit prendre des précautions supplémentaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'employeur ne peut pas se servir de motifs qui tiennent de la vie personnelle ou du salarié. Et du coup, en aucune façon, l'activité syndicale du représentant du personnel peut être prise en compte dans l'évaluation professionnelle. La seule mention, par exemple, du mandat dans le compte-rendu d'évaluation va laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale. Donc, soyez vraiment vigilants par rapport à ça et voilà, oui, prenez des précautions supplémentaires lorsque vous évaluez un représentant du personnel.
Ouais, très clair. Une autre question aussi posée par Marine, est-ce que tous les salariés doivent être soumis à l'entretien d'évaluation ?
Alors, même si l'entretien d'évaluation n'est pas obligatoire, si vous décidez de le mettre en place dans votre entreprise, vous devez y soumettre l'ensemble des salariés qui entrent dans son champ d'application. Vous ne pouvez pas faire de distinction entre les salariés et décider de n'y soumettre que certains et pas d'autres.
Ok. Peut-être une dernière question parce que je vois qu'il est déjà 14h47 et qu'on a dépassé le temps de 2 minutes. C'est est-ce que l'entretien professionnel, c'est une question de Marie, est-ce qu'il peut être mené par 2 personnes?
Oui, tout à fait. Enfin, y a pas de disposition particulière qui s'oppose au fait qu'un entretien soit mené par 2 personnes, par 2 personnes à la fois. Après, voilà, faut être vigilant aussi que ce ne soit pas dans le but de mettre la pression aux salariés, parce que comme on le disait tout à l'heure, voilà, tous les salariés ne vivent pas ces temps d'échange de la même manière et certains peuvent développer une forme de stress ou de pression plus poussée que d'autres. Donc il faut être vigilant aussi au bien-être du salarié pendant cet entretien, mais concrètement, rien ne s'oppose à ce qu'il soit mené par 2 personnes.
Ça marche. Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas prendre toutes les questions parce que là, il y a des nouvelles questions qui arrivent. Ce que je vous propose, c'est que nos juristes vous rappellent d'ici quelques heures ou quelques jours en fonction de leur activité. Je vous propose également de poser directement vos questions via le formulaire que vous a partagé Mylène. Donc, pareil, les juristes vous répondront rapidement. On vous a remis également les différents dossiers et modèles qu'on a créés, qui ont été créés donc par notre équipe édito, donc Alexandra. Et n'hésitez pas donc à télécharger. Oui, c'est payant, mais il y a un vrai travail derrière. Ça fait partie de notre base documentaire. Vous pouvez soit direct ou soit vous abonner directement. Ensuite, je vous ai remis une slide sur les accompagnements juridiques. On a deux abonnements, une formule pro et une formule premium. Dans ces deux formules, vous pouvez avoir accès à nos juristes qui répondent à vos questions. La différence, la principale différence sera le moyen de communiquer avec ce juriste, soit par téléphone ou soit par email. Nos clients adorent la formule premium puisqu'ils peuvent appeler directement leur juriste qui leur est dédié à leur entreprise. Et c'est vrai que ça fait gagner du temps à tout le monde. La dernière slide, avant de vous dire au revoir, c'est notre prochaine webconférence qui aura lieu le 7 décembre. Donc, ce sera Hugo, un autre juriste de notre équipe, qui traitera du sujet de la prestation de services, des apporteurs d'affaires et des partenariats, enfin tout ce qui concerne la rédaction des contrats commerciaux. J'espère que le relais de Mylène, un peu à l'improviste, vous a convaincu quand même. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas si vous avez des questions et à très bientôt.
Merci à tous.
Et merci Alexandra, effectivement.
Merci à tout le monde pour votre attention.